C'est vrai que c'est le Radio Don tout au long de cette semaine et que nous avons des invités exceptionnels. Alors, merci beaucoup à vous, Rachel Suteau, d'avoir accepté notre invitation. Bonjour.
Bonjour et merci de m'avoir invité.
Vous êtes la conservatrice du patrimoine et responsable du château fort de Lourdes et de son musée pyrénéen. Alors, merci d'être venu parce que, en fait, c'est tout bête, on est voisins. Nous, la radio, elle se trouve juste au pied de ce château, de ce magnifique château. Et je sais en plus que ce qui vous tient à cœur, c'est un futur anniversaire, mais on peut déjà en parler puisque 2021 sera le grand anniversaire, les 100 ans de la naissance du musée pyrénéen. C'est quoi ce musée pyrénéen, Rachel Suteau? Bon, le nom, on le dit un petit peu, on parle des Pyrénées, mais c'est quoi musée pyrénéen?
Eh bien voilà, comme vous le dites, c'est un vieux monsieur ou une vieille dame. Hein, puisque c'est
de 100 ans.
Exactement, puisque c'est un musée qui a été fondé par un couple, Louis et Margalide Le Bon Didier, venu de l'Est et tombé résolument amoureux des Pyrénées et de l'ensemble de leur vallée. Et Louis et Margalide Le Bon Didier, au début du XXe siècle, ont découvert également le château fort au sein de la ville de Lourdes et travaillaient avec de grandes instances locales en matière de développement touristique, découverte de la nature, réflexion et création de circuits de découverte d'escalade respectueuse de la montagne. Donc il y avait des débats déjà à ce moment-là autour à la fois de la protection de l'environnement, mais également de son accès et de l'ouverture à tous les publics possibles des lieux de la montagne avec des réflexions que l'on retrouve aujourd'hui autour de la thématique de l'écologie.
Est-ce que c'est Lourdes, le phénomène Lourdes, puisque là, on est aux alentours de 1921,
hein, puisqu'on Exactement.
Est-ce que c'est le phénomène Lourdes qui les fait venir à Lourdes et ils découvrent là le château et ils en tombent amoureux, ou est-ce que c'était dans leur recherche plutôt des Pyrénées qui a fait qu'ils se sont arrêtés à Lourdes et... Est-ce que, parce qu'on avait le début, hein, enfin le début 1921, on est déjà bien amorcé, hein, 1858 les premières apparitions, mais vraiment l'explosion de Lourdes, on va dire, c'est avec l'arrivée du chemin de fer, on est au début du XXe siècle.
Leur découverte des Pyrénées ne commence pas par Lourdes, cela commence par la vallée de Campan. Par contre, leur envie de développement et d'ouverture des Pyrénées s'inscrit résolument à Lourdes, du fait même de l'existence et de la réalité de Lourdes au tournant du XXe siècle, avec son envergure internationale et cette terre déjà considérée comme une terre d'accueil de communautés extraordinairement diverses qu'ils rencontrent là. Et puis, il y a la découverte du château. Et le musée est vraiment, dans le projet du couple Le Bon Didier, étroitement lié au lieu qu'est le château, puisque, comme vous l'avez dit, Radio Présence est au pied du château, le château étant lui-même positionné en haut d'un rocher. Il y a vraiment une notion d'un lieu extrêmement fort, comme un navire sur un rocher, avec une présence physique qui fait que il y a une attraction géologique, naturelle, extrêmement forte, avec cet environnement d'une population très diverse, internationale, comme je le disais, mue par la foi, avec une transposition sur la foi dans la nature, dans les phénomènes géologiques des Pyrénées et dans la diversité aussi des identités des vallées qu'ils connaissent déjà et qu'ils ont appréhendées. Donc leur projet de créer un musée pyrénéen s'inscrit résolument à Lourdes pour l'ensemble de ces phénomènes-là, pour le lieu, château fort sur son rocher, et pour l'environnement humain généré justement depuis les apparitions faites à Bernadette au milieu du 19e.
Alors, si on prend la machine à remonter le temps, qu'est-ce qu'il y avait au château? Qu'est-ce qu'on faisait au château avant que la famille Le Bon Didier arrive et qu'il crée ce musée pyrénéen? C'était quoi la vie de ce château avant l'arrivée de la famille Le Bon Didier?
Depuis la fin du 19e siècle, en fait, il était laissé un peu à l'abandon. Il a été successivement, lieu de garnison, ce qui était le cas au milieu du 19e siècle, à l'époque de Bernadette et de la société bigourdane de cette époque-là. À la toute fin du 19e siècle, il a été laissé à l'abandon par l'État, la garnison est partie et il était en phase de ruinification avec des appropriations locales de voisins et quelques visites où on pouvait monter au château, mais gérées par une ou deux familles lourdaises sans que la propriété soit vraiment clarifiée de ce bien. Et puis, vous le savez, le tournant du XXe siècle avec la montée en puissance des forces ou de lutte nationaliste a fait que nous avons abouti à la Première Guerre mondiale qui a fait prendre du retard à ce projet de réinvestir par la collectivité ou par un collectif vis-à-vis de ce château. Parce que le projet d'en faire un musée est antérieur à la Première Guerre mondiale.
D'accord.
Il date de la première dizaine d'années du 20e siècle, mais il n'a pu aboutir qu'en 1921, après les reprises de dialogue entre la famille Le Bon Didier et le docteur Meillon, qui était une très forte personnalité de l'époque, vis-à-vis des édiles de la ville de Lourdes. Donc, le château fort était ruinifié, pas vraiment considéré en tant que tel, apparaissait un peu comme un fardeau dont on ne savait pas trop quoi faire. Et puis, le projet de Louis et Margalie de Le Bon Didier, avec les appuis du docteur Meillon, ont trouvé un bon écho auprès de la collectivité qui en était devenue propriétaire, mais qui ne savait pas trop quoi en faire. Et notamment pour contrer un projet de privatisation du château, eh bien, la collectivité a décidé, la collectivité de l'époque, d'il y a 100 ans, a décidé de le mettre à disposition gracieusement du couple Le Bon Didier et notamment des associations de développement des Pyrénées, de développement touristique et de développement lié à l'environnement de ces sociétés pour qu'elles puissent y développer effectivement un musée. Et du coup, ils ont travaillé d'arrache-pied. Très rapidement, le couple qui habitait toujours à Campan a déménagé au château, s'est installé au château pour entreprendre des travaux de restauration du bâtiment et pour entreprendre l'ouverture progressive de salles que Louis Le Bon Didier appelle des chambres, un peu comme des chambres qui vont présenter des intérieurs, des univers qu'il reconstitue autour du mode de vie de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Et du coup, jusqu'avant la Seconde Guerre mondiale, pendant une quinzaine d'années, ils vont ouvrir une vingtaine d'espaces complètement reconstitué autour des thèmes des Pyrénées, avec la chambre de Bigorre, avec l'atelier du sandalier, avec le travail aussi autour des rites de passage, les rites comme on étudie les sociétés à l'époque, entre la vie et la mort, tout le rythme de vie d'une famille ou des familles, des modes de vie que l'on peut trouver en Bigorre, mais aussi en Béarn, avec des ouvertures ponctuelles sur la Catalogne et sur le Pays Basque.
Voilà donc un peu le point de départ de ce musée pyrénéen. Qu'est-ce qu'on y trouve en fait aujourd'hui?
Alors on y trouve en visite une grande diversité justement de ce qu'on appelle aujourd'hui des collections, mais qui donnent des images, en fait. On trouve une vision de ce qu'ont pu être les Pyrénées, justement, à ce tournant du 19e, 20e siècle, avec donc des collections autour des modes de vie, comme je vous disais, dans l'intérieur domestique des différentes populations, comment on mangeait, qu'est-ce que l'on y mangeait. On trouve également des présentations de comment on vivait, la chasse, la pêche, et je ne vais pas dire forcément les traditions, même si c'était quelque chose qui était fortement soutenu à ce moment-là. Il y a des courants que l'on appelle des courants folkloristes. Donc, on trouve beaucoup de costumes anciens. on trouve des collections de sculptures, de peintures qui représentent les Pyrénées. On trouve également du matériel archéologique qui retrace des périodes beaucoup plus anciennes de la chaîne des Pyrénées, notamment sur la période glaciaire, hein, qui est la résurgence de ce rocher, mais aussi sur la période néolithique. Enfin, voilà. On trouve également des outils techniques. Avec la question des outils justement de chasse et d'entretien des différents sols ardus. On trouve du matériel autour du pastoralisme, hein, et de la vie pastorale. On trouve également des sculptures religieuses, puisque le musée pyrénéen a récupéré une partie du mobilier religieux de l'ancienne église paroissiale de Lourdes qui a été démantelée au tout début du XXe siècle. Et on trouve également un ensemble d'œuvres directement liées aux Pyrénées, que ce soit la conquête sportive des Pyrénées avec des collections de ski, un bobsleigh absolument magnifique qui a d'ailleurs circulé dans les rues de Lourdes quand il y avait encore de la neige et beaucoup plus de neige qu'aujourd'hui. On trouve également des témoignages de tous les grands pyrénéistes, ceux qui ont fait et construit l'histoire de la conquête des Pyrénées, mais également de la découverte scientifique des Pyrénées, donc notamment des instruments de mesure, quand on en était encore à chercher à mesurer la hauteur des différents pics, les passages des vallées, etc., etc. Donc une très grande diversité d'objets. Et puis également, parce que j'ai cité Margalide Le Bon Didier, Margalide Le Bon Didier est une femme exceptionnelle, puisqu'elle avait fait des études d'art dans son territoire d'origine, à l'est de la France, du côté de Nancy, et elle a été l'artisane des idées de son mari pour la réalisation de maquettes architecturales, qui sont absolument truculentes, hein, où on trouve un village, la représentation d'un village, une maison basque, l'église de Lucin-Sauveur, enfin voilà, différentes représentations architecturales. Et elle a également réalisé beaucoup de pierres tombales typiques du Pays basque. Elle a réalisé également différentes sculptures qui sont présentées dans l'ensemble du musée pour traduire ce qu'étaient les modes de vie et les modes de pensée aussi des sociétés pyréennes traditionnelles. Ça, c'est la partie visible.
La partie visible de l'iceberg.
C'est ça. Ça c'est la partie visible de l'iceberg, puisque au musée pyrénéen, nous détenons également un fonds documentaire exceptionnel avec plus de 50 000 ouvrages sur le pyrénéisme, dont notamment la bibliothèque personnelle de Louis Ramon de Carbonnière, dont on dit, homme illustre scientifique du XVIIIe siècle, dont on dit qu'il est le fondateur justement du pyrénéisme.
Alors, je sais qu'il y a des projets de pouvoir mettre en sécurité toutes ces collections, voire les restaurer et peut-être aussi de nouveau présenter d'autres objets. Hein. Ce musée, il vit, hein, il évolue, il vit. Alors, on dit que nul n'est prophète en son pays. Est-ce qu'aujourd'hui, les locaux s'approprient cette richesse qu'ils ont ou c'est plutôt des étrangers ou des gens en visite et qui font vivre ce château?
En fait, ce qui fait vivre ce château, c'est les rencontres que toutes les personnes qui y viennent expérimentent. La diversité des collections, le lieu en lui-même, le point de vue qu'il donne sur les montagnes et notamment sur les vallées du Lavedan, le point de vue également sur vous, oui. L'ensemble des éléments, édifices du sanctuaire, le point de vue sur la ville, les jardins, également très, très importants, en plus des collections, donc jardins botaniques, jardins des simples, jardins de différentes représentations. Cette rencontre-là, elle n'est pas si différente que l'on soit local de l'étape, comme vous dites, ou que l'on soit visiteur d'une contrée très, très étrangère, parce que l'aspect international de Lourdes est très important. Nous avons effectivement une diversité de visiteurs que l'on a pu encore mesurer cet été, justement, dans un contexte très particulier de fermeture, réouverture, de repli hein, du fait de la pandémie, puisque nous avons eu une fréquentation qui a, de fait, assez peu baissé, avec une fréquentation en 2020 qui correspond à 70% de la fréquentation de 2019. Donc, c'est une faible diminution et on a pu observer que notre visitorat, et c'est comme ça que l'on parle de l'ensemble des visiteurs, que notre visitorat était effectivement très diversifié en provenance du local, de la région, que ce soit région Occitanie ou que ce soit région Nouvelle-Aquitaine, mais également avec un équilibre entre des familles, des petits groupes, des visiteurs étrangers. Donc cette assimilation ou en tous les cas cette rencontre avec l'ensemble des gens lourdais, bigourdants ou au-delà, elle est réelle, elle est présente. Nous ne sommes pas du tout qu'un lieu qui n'est vu que par les autres. Et puis, vous avez ce phénomène, en fait, c'est comme la Tour Eiffel. Hein. Ce ne sont pas les voisins de la Tour Eiffel qui y montent tous les jours et régulièrement. donc là, c'est le cas. Mais la présence physique, et je parle à Radio Présence, la présence du château sur son rocher, c'est quelque chose qui est très, très important pour les Lourdais. Et nous avons, depuis 2 ans, facilité l'accès justement des habitants de proximité ou des proches de l'histoire patrimoniale au château fort musée pyrénéen par le biais d'une carte d'abonnement parce qu'on ne peut pas faire de préférence géographique, mais en s'abonnant, je fais une promotion, hein, mais en s'abonnant au château fort musée pyrénéen, cela en fait fluidifie complètement la facilité de pouvoir y venir quand on veut, pour ce que l'on veut, que ce soit pour un temps de repos au jardin, que ce soit pour aller visiter une salle de façon plus approfondie, que ce soit pour échanger avec des amis autour des maquettes qui sont présentées dans les jardins. Et cette carte d'abonnement vraiment permet une véritable rencontre avec une partie de nos visiteurs.
Bon, on invite nos auditeurs, effectivement, donc à téléphoner hein, au château fort, ils trouveront bien sûr les coordonnées très facilement sur Internet et puis se renseigner sur les différentes propositions qui sont faites, comme cette carte d'abonnement. Rachel Suteau, on démarrait cet entretien et j'espère qu'on va pouvoir, sur l'année 2021, vraiment fêter cette grand anniversaire qu'est ce musée pyrénéen et ce château, grâce à des chroniques qu'on va peut-être mettre en place avec vous. J'aimerais que maintenant on parle un peu du local. On a dit que cette radio était au pied de ce château. Qu'est-ce que ça représente pour vous, un média local, par rapport à tout ce qui peut se faire aujourd'hui au niveau Internet, au niveau télévision nationale, internationale, la mondialisation? C'est quoi ce petit radio local qui se trouve vous, en bas de votre château? Qu'est-ce que ça représente pour vous, les médias locaux?
On a parlé avant cet échange radiophonique justement de cette proximité géographique, mais qui de mon point de vue va au-delà d'un seul aspect géographique. Je pense que c'est vraiment une rencontre d'état d'esprit. Quand on est un écomusée et musée de société, ce qui est notre cas, cela veut dire qu'il y a une proximité, presque une adhésion à un état d'esprit. Nous avons une part de naturel dans le sens animal. C'est un écosystème. Nous sommes du même terroir. Nous sommes du même climat. Nous sommes donc des mêmes énergies, des mêmes relations. Et pour moi, un média local, c'est effectivement ce travail d'assimilation et de ressenti, d'écoute. J'attends de vous beaucoup d'écoute. D'une radio locale, j'attends beaucoup d'écoute de ce qui se fait, de ce qui se vit et de la façon dont ceux qui labourent le terrain, ceux qui font la culture, pour notre cas, puissent être effectivement compris et écoutés. Et c'est tout l'enjeu d'éventuelles futures chroniques, effectivement, dans le cadre du centenaire. Je pense que le rôle d'une radio locale, c'est d'être vraiment à l'écoute de l'ensemble des évolutions aussi, des mouvements qui se passent au sein de la société qui est proche.
Donc, peut-être on va inviter aussi nos auditeurs à nous soutenir, puisque c'est cette semaine un peu spéciale, celle du Radio Don, et c'est jamais facile de faire l'aumône, hein, quelque part. Mais c'est vrai que sur Radio Présence, il n'y a pas de publicité. Nous vivons que des aides que nous font les diocèses et surtout nos fidèles auditeurs. Donc, on invite les gens à composer le 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 pour nous soutenir, pour continuer cette mission que vous avez très bien définie, Rachel Suto. On va terminer par juste un mot. Michel Azo, qui était notre invité, ancien professeur d'histoire et puis également ancien élu à la ville de Lourdes, mais aussi à l'initiative pendant de nombreuses années des journées de la paix qui s'organisaient ici à Lourdes, où on arrivait à faire de l'interreligieux, où tout le monde venait se parler, avec des débats très intéressants qui se clôturaient par un grand concert de la paix aux alentours du 15 août. Michel Azo disait que le drame, aujourd'hui, dans ces temps un petit peu troublés entre le Covid, mais aussi les attentats, c'était la réponse à tout ça, c'était souvent la culture. Qu'est-ce que vous dites ou qu'est-ce que vous réagissez à ça ?
Je vais faire le parallèle avec ce sur quoi nous travaillons dans le cadre, vous l'avez évoqué, dans le cadre de la restauration des collections, la restauration du monument. C'est la notion du soin qui est particulièrement importante à Lourdes. Et je pense que nous avons un devoir de prendre soin les uns des autres, tout autant que de prendre soin des traces de l'histoire, des sociétés anciennes, comme autant de moyens, justement, de se rassembler. Non pas de se rassembler contre, mais de se rassembler pour, effectivement, continuer ensemble sur les terres et sur la terre sur laquelle nous vivons. Donc, il y a plein de choses que j'entends et qui s'appliquent dans le domaine culturel, mais qui sont en fait des choses transverses dont la culture se saisit depuis déjà de nombreuses années, sous des formes très, très diverses. C'est les enjeux écologiques, donc prendre soin de la terre et de notre écosystème duquel nous faisons partie, et également les enjeux en matière de création. Création, ça ne veut pas dire forcément faire un geste fort et unique, un épiphénomène. La création dans le domaine de la culture et dans ce que nous mettons en place, c'est aussi la capacité à entretenir notre capacité créatrice à tous. Donc, je rejoins complètement Monsieur Azo sur le fait que nous sommes là sur un point de bascule qui est très important, qui s'étale, qui est douloureux, mais qui est un point de bascule duquel il nous faut absolument sortir plus reliés et en résonance les uns avec les autres. Et la culture, non pas dans ses épiphénomènes, mais dans sa pratique et dans sa pratique régulière de création, de renouvellement, de diffusion, est fondamentale pour refaire société, oui.
Donc, plus que jamais, Radio Présence doit aussi continuer et promotionner tout cela. Merci beaucoup Rachel Suto. Et je rappelle à nos auditeurs que vous êtes la conservatrice du patrimoine et responsable du Château Fort et Musée Pyrénéen de Lourdes, et on aura, j'espère, l'occasion de se retrouver pour cette année 2021, qui, je l'espère aussi, sera beaucoup plus calme au niveau de l'actualité, et que tout ce que nous vivons en ce moment bien soit balayé, qu'on retrouve une vie à peu près normale. Merci beaucoup Rachel Suto.
Merci à vous.
À bientôt.
Au revoir.